Vous écoutez la web radio du HOF en direct du Novotel Avignon Centre.
Osmose.
Osmose.
Osmose Radio.
La web radio du HOF.
Les empires, ils naissent, ils prospèrent et puis ils finissent par s'écrouler. C'est un éternel recommencement depuis l'aube de l'humanité. Et l'empire soviétique ne fait pas exception, qui s'est écroulé il y a 30 ans justement. En 1991, c'était la fin de l'URSS et ça a été un grand choc pour beaucoup de gens dans le monde entier et à commencer par les Russes eux-mêmes. Et c'est le sujet de votre spectacle à tous les trois que je reçois aujourd'hui sur le plateau d'Osmose Radio, Crépuscule Rouge, pour lequel je reçois Serge Sarkissian. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce texte en fait, qui a été mis en scène par Bernard Lanot. Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Et donc, parmi les acteurs, il y a Catherine Salvia. Bonjour.
Bonjour. Il y a une jeune qui s'appelle Daria Delicis-Garay et un autre acteur qui s'appelle Philippe Lebas.
Voilà, mais on n'avait pas assez de micros pour tout le monde et vous faites bien de le rappeler tout de même. Alors, j'aurais dû commencer par les dames. Là, vous me pardonnerez, j'ai pris l'ordre chronologique. Vous ne sauriez m'en vouloir, on est bien d'accord. Votre indulgence vous honore pour un petit animateur radio comme moi, caché derrière son micro. Et on disait, oui, le Crépuscule Rouge, en fait, c'est le nom que vous avez donné à ce texte mis en scène au Festival HOF d'Avignon. C'est joué jusqu'au 29 juillet à 18h50 au Théâtre Le Petit Chien, donc juste à côté du Théâtre du Chien qui fume, près de la Porte Limbert. Alors, j'ai eu quand même un petit peu de mal pour rassembler des éléments préalables sur ce spectacle en particulier, et pour cause. C'est une création pour le Festival HOF 2021.
Effectivement, c'est une création pour ce festival-là. Et donc, vous n'avez pas eu trop d'informations, à part, je suppose, un dossier de presse qui présentait globalement le contenu du projet.
Voilà. Mais vous savez, on aime bien gratter un petit peu avant les interviews. C'est mon côté archéologue du théâtre. Et alors, comment vous est venue l'idée d'aborder ce texte? Parce que le titre, déjà, fait un petit peu pléonasme, pardonnez-moi. Crépuscule rouge. Ah bah oui, le soleil est toujours rouge au crépuscule. Mais en fait, non, ça a une valeur symbolique forte puisque ça fait penser au rouge soviétique et à la fin, à l'agonie, en quelque sorte, de cet empire-là.
Oui, alors d'une part parce que j'ai fait un peu d'histoire dans ma vie, d'autre part parce que je m'intéresse un peu à la politique, mais pas politicienne, au débat d'idées. Et puis surtout aussi, je me suis intéressé à l'histoire de personnes. Donc les personnages sont un peu marqués, notamment Azad, qui est un Arménien d'origine et qui est un peu nourri par l'histoire familiale, puisque mes ancêtres et ma famille paternelle est issue du Caucase. Donc voilà, et puis d'une certaine manière, ce qui m'a aussi intéressé, c'est la question de l'homo soviéticus, puisque les trois personnages sont un Kazakh, un Arménien, une Ukrainienne et puis une Russe, une jeune femme russe. Et comment ces trois personnages, en tout cas les trois plus anciens, ont vécu l'ère stalinienne, l'ère du communisme, et ils arrivent un petit peu au crépuscule, au soir de leur vie, d'où Crépuscule Rouge, et en lien avec cette idéologie qui les a nourris et qui parfois, on va s'en rendre compte, les a broyés. Et il y a également aussi le faisceau de l'espoir qui est représenté par Masha, la journaliste, petite fille de Sonia.
C'est marrant que vous me parliez justement d'un personnage de journaliste. Certains de vos confrères au théâtre nous parlaient tout à l'heure sur Osmose Radio d'Anna Politkovskaya, qui elle était une journaliste russe célèbre et extrêmement courageuse, elle aussi. Alors donc vous avez choisi, pour prendre une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, en 1960, on parlait, dans les années 60, on parlait du socialisme à visage humain, qui était une manière de vouloir réformer ce régime-là. Et bien vous avez choisi d'aborder l'histoire des pays socialistes à l'échelle humaine, en quelque sorte, par rapport à ce huis clos, enfin en tout cas ces échanges entre ces personnages de gens du commun soviétique qui non seulement vivaient sans doute dans des appartements communautaires déjà à l'époque, mais en plus venaient de tous les confins de la Russie qui était un pays multiethnique et immense.
Alors effectivement, moi j'ai inversé l'approche et j'ai voulu mettre le faisceau, le curseur sur trois personnages. La quatrième venant un petit peu comme un apax qui ouvre vers l'horizon, vers l'espérance, et qui a son rôle déterminant dans le drame. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est comment ces personnages ont évolué. Et il y a trois très beaux portraits que Bernard Lanot a mis en scène et dont l'un est interprété par Catherine. Elle vous en dira un peu plus là-dessus. Et ce qui m'intéressait, c'est de travailler la psychologie de ces personnages. Comment ils se sont construits, comment...
Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Parce
pardon. Comment est-ce qu'au soir de leur vie, finalement, ce qui leur reste après tant de vicissitudes, tant de difficultés, il leur reste quelque chose d'essentiel, c'est l'amitié, et au fond, en arrière-plan, c'est l'âme russe. Et qu'est-ce que c'est que cette âme russe? On va essayer d'y répondre.
Avec votre collègue qui s'intéresse un petit peu au sujet. Mais quant à vous, Bernard Lanneau, Tolkien aurait adoré votre nom. Hein, si je peux me permettre cette réflexion.
Il ne me l'a jamais faite.
Je ne suis pas le premier à vous dire, du coup. Voilà. Et en fait, Bernard Lanneau, vous, pour aborder un petit peu ce sujet-là, cette vision de la fin d'un système politique, mais à l'échelle des citoyens qui l'ont vécu, qui l'ont parfois même subi, eh bien, quelles ont été vos intentions de mise en scène? Quels ont été les procédés que vous avez utilisés pour retranscrire toutes les émotions qui peuvent arriver dans ces moments-là?
Dans le texte, qui est un texte éminemment politique, parce que moi, ce qui m'a intéressé, au-delà de la réflexion politique et de l'opposition entre ces différents personnages, notamment les deux hommes, puisqu'il y en a un qui a été en hôpital psychiatrique, au goulag, et l'autre qui est, lui, un fervent partisan de Staline, carrément de Staline. Hein. Donc, au-delà de cette opposition-là, c'est effectivement... l'humanité qui existe entre ces personnages, ces trois personnages, et j'ai fait travailler les acteurs dans ce sens-là, c'est-à-dire on peut aller très loin dans la discussion, on peut s'affronter très fortement parce qu'on se respecte, parce qu'on s'aime, parce qu'on vit ensemble et parce qu'on partage malgré tout les mêmes valeurs humaines. Mais bon, c'est vrai que le système politique, tout d'un coup, conduit à s'opposer très violemment et quelque part au détriment de l'amour fraternel de chacun. C'est ça qui est très beau parce qu'on est en plus, et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un moment de crise. On est dans un moment de coup d'État. Demain, ce sera peut-être le retour de Staline ou alors on ira encore plus loin de Gorbatchev. Donc, on est dans un moment où tout d'un coup, tout peut changer. Donc là, on peut tout se permettre parce qu'on est tous les sentiments sont exacerbés. Et voilà, et ce qu'il y a... Et là où je suis très heureux, c'est que c'est comme ça que le spectacle est reçu, si vous voulez. C'est que dans une problématique vraiment très, 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 très politique et très... très théorique. Ce qui ressort de ça, c'est l'humanité, l'affrontement des personnages. Et ça, les gens sont très touchés émotionnellement par le spectacle. Donc ça, j'en suis très content et je remercie les acteurs qui sont vraiment très convaincants.
Et en ce sens, vous nous rappelez quelque chose que nous, on ignore de ce côté d'ici, de ce côté de l'ancien rideau de fer, hein, pour reprendre les repères qu'on avait à l'époque, c'est que les Russes n'étaient pas forcément... Ils étaient gavés de propagande, mais ils le prenaient ça avec un certain cynisme et souvent beaucoup d'humour. Les blagues soviétiques qu'on trouve aujourd'hui sur Internet sont extrêmement drôles et c'était une manière justement de supporter la pesanteur d'un système. Mais les gens discutaient beaucoup et donc c'est tout à votre honneur de nous rappeler ce fait. Il n'y avait pas moins de discussion que chez nous. Et si nous, en France, on a eu des Trois Glorieuses en 1830, en juillet 1830, qui personnifie la colonne de la Bastille, là encore, ça a été une révolution avortée, on aurait dû se retrouver avec une république et finalement on s'est retrouvé avec un nouveau roi. Et bien, les Russes ont vécu la même chose, vous venez de le rappeler entre deux lignes. C'est qu'il y a eu trois jours extrêmement incertains en 1991 où les Russes auraient pu se retrouver avec un régime réactionnaire de ce communisme à l'ancienne, stalinien donc, ou bien un régime de progrès, en tout cas, c'est comme ça qu'eux l'espéraient à l'époque ou pas. Par rapport à ces journées décisives de 1991 qu'on a vécues à la télé pour certains d'entre nous, avec Eltsin qui arrive à contrecarrer l'offensive des putschistes de l'armée russe qui voulait revenir au communisme d'antan. Et finalement, ça s'est dégonflé en quelque sorte. Mais ça, les gens, dans le spectacle, puisque l'action du spectacle de la pièce se passe à Novosibirsk, c'est-à-dire au fin fond de la, entre guillemets, de la Pampa, ça se passe au milieu de la Sibérie, et les personnages, notamment celui que vous incarnez, Catherine Salvia, sont des gens qui voient tout ça de loin, qui suivent l'affaire dans les médias et qui ont leur propre contradiction, non seulement par rapport à l'histoire, mais par rapport à l'actualité telle qu'elle leur apparaît à ce moment-là.
Mais oui, j'aime beaucoup mon personnage, d'abord parce que elle ne comprend rien à la politique et c'est exactement moi. Et
ça, j'étais très contente. Vous êtes dur avec vous-même.
Non, pas du tout. Non. Et alors, le truc rigolo, c'est que en 89, j'étais à Moscou et j'avais des amis moscovites qui trouvaient le personnage de Gorbatchev, qui ont adoré le personnage de Gorbatchev, disant enfin, on peut regarder la télévision sans propagande. Ils étaient totalement pour Gorbatchev. Et ça, j'ai compris ça, quoi. Voilà. Et ça me rappelle ces moments-là et ça me fait très plaisir de jouer ce personnage qui, qui voulait être danseuse au Bolchoï, qui a été au Bolchoï et qui, après un accident, s'est retrouvée à Novossibirsk dans un appartement communautaire.
C'était aussi la gloire du système soviétique, c'est-à-dire qu'on pouvait atteindre la gloire. Enfin, Gagarine aurait pu ne jamais être cosmonaute et rester un fils de fermier toute sa vie. Et finalement, il est allé dans l'espace. Une danseuse du Bolchoï ne tombait pas dans la misère crasse après un accident de la vie, mais bon, par contre,
presque. Non. Il y a eu non. Elle s'est exilée à Novossibirsk parce qu'elle s'est retrouvée pour élever son enfant. Son mari était mort. À la bataille de Koursk. Et non, pas spécialement, c'était pas non plus l'Éden.
Attendez, comprenez-moi bien. Dans le régime soviétique, oui. C'est vrai que c'était pas l'aisance, c'était pas énorme. Il y avait même à l'époque de Gorbatchev, il y avait des pénuries pour des chaussettes. Un truc aussi anodin que des chaussettes.
Bien sûr.
C'était vraiment ridicule. Mais pour autant.
Il y avait du bien comme du très mal.
Les soins dentaires étaient gratuits. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, encore aujourd'hui, il y a des réserves indiennes. Où il y a du retour du choléra, etc. Des trucs qu'on pensait avoir disparu à jamais.
Oui, mais
on va pas se lancer dans ce débat.
Il y avait les purges aussi. Puis il y avait les transplantations de population, tous les Ukrainiens qui ont été envoyés en exil et tout ça. Alors il y a une façade très jolie comme ça. Mmh. Et puis aussi le fin fond qui n'est pas très.
Mais justement, ce fin fond, nous, on a entendu parler, et ça a même été parfois monté en épingle, de notre côté, du rideau de fer. Mais ce que j'aime, avec la distance qu'on peut prendre aujourd'hui pour aborder le thème avec sérénité, c'est aussi ce qu'il y avait de, je vais pas dire de positif.
Il y a eu du positif, mais il y a eu beaucoup de négatifs.
Voilà, après, il ne s'agit pas pour nous de faire un jugement de valeur, bien entendu, on n'est pas là pour ça. Mais disons qu'aujourd'hui, on peut prendre les choses plus sereinement. Et par contre, les Russes eux-mêmes ont un côté extrêmement, un regard extrêmement sévère sur cette période historique, parce que Gorbatchev était peut-être apprécié un peu à l'époque, mais les générations qui ont suivi le détestent cordialement. Et pour bien certains retours, et pas que en Géorgie, d'où il était originaire, il y a un certain retour en grâce de Staline. Et c'est un YouTuber. Pour ma part, c'est un YouTuber qui est né dans les années 90, donc après les événements dont on parle, qui fait des vidéos donc sur Internet à propos de l'histoire de sa patrie, puisqu'il est franco-russe lui-même, qui m'a appris ces éléments-là, c'est-à-dire que Staline était une personnalité très rock'n'roll, adulée en Russie aujourd'hui, et pour ma part, j'en tombe des nues.
Je
vous en prie. Vous-même, Serge Sarkissian, vous avez une histoire familiale par rapport à l'ex-empire soviétique. Vous avez situé l'action à Novosibirsk, mais vous auriez pu en parler aussi en Arménie, d'où votre famille est originaire.
En tout cas, du côté paternel. Mais je reviens sur Staline et sur le débat de fond pour nourrir. Je pense que y a le communisme stalinien, en tout cas, est une religion inversée.
Oui, tout à fait. Staline avait fait le petit séminaire.
Voilà, exactement, à Tbilissi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les soviétiques étaient des gens très instruits. Il y avait une moyenne, on parle des Komsomols et tout ça, et Sonia est d'une extraction familiale
parlez dans le micro,
modeste, mais qui a réussi grâce, et elle le reconnaît au cours du spectacle. Ce qui est intéressant, c'est que cette connaissance, cette culture générale, ce haut niveau culturel, n'empêchait pas, en cas de situation, les gens se retrouvaient à travailler à l'usine. Donc, en fait, l'usage ou l'utilisation de leur savoir ne leur servait pas à grand-chose, sauf à aiguiser leur conscience. Et ils avaient effectivement, il y avait une forte d'acuité dans la conscience des soviétiques qui leur a permis d'endurer les choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on oublie de dire, c'est qu'en réalité, le communisme est une idéologie qui ressemble à bien d'autres en cela, dont l'essence se voulait le bonheur de l'humain. Et qu'est-ce qu'on arrive à avoir ? À une tragédie. Et moi, la question essentielle qui est derrière, c'est comment on en arrive là ? Et pourquoi on en arrive là ? Et aujourd'hui, moi, j'aimerais bien que le communisme, comme le nazisme, soit un petit peu examiné au tribunal de l'histoire.
Et il l'est en partie déjà.
En partie seulement.
Voilà, mais c'est vrai que Boris Vian disait « Je ne cherche pas le bonheur de tous, je cherche le bonheur de chacun ». Bon, a priori, Staline n'était pas au courant.
C'est ça.
Mais vous vouliez réagir, Bernard Lanoux ?
Non. Je voudrais, par rapport au spectacle purement dramatiquement, dire que ce qui me surprend un peu et me comble, c'est que le débat apparaît très actuel.
Ouais.
On est dans une période historique, mais tout d'un coup, comme le personnage que je joue, qui est donc vraiment pro-stalinien, critique beaucoup la société de consommation, la société occidentale telle qu'on la vit, telle qu'elle dérive dans beaucoup de domaines. Tout d'un coup, sa vision d'une organisation de la société qui est certes difficile, mais pure et exigeante, fait que le débat apparaît actuel et que beaucoup de gens, en fait, sont sensibles à cette argumentation. Voilà. Je ne dis pas que c'est pro-soviétique, hein, parce que ça ce serait trahir l'auteur. Mais,
c'est faire preuve d'empathie, c'est se mettre à la place des gens, voilà. À leur niveau, voilà. Et à leur époque.
Et se poser les questions, les bonnes questions. Est-ce que vraiment, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre façon d'organiser la société que l'on vit ? Voilà, nous, aujourd'hui, en Occident, par exemple.
D'où l'idée d'un processus révolutionnaire. Mais c'est vrai que c'est... Vous l'avez suggéré tout à l'heure, mais la Russie s'est construite grâce à Staline. Comme je disais tout à l'heure, ce YouTuber m'a appris GouvHD, pour ne pas le citer, m'a appris que Staline avait un retour en glace. Et c'est grâce, pardon, en glace. Oui, parce que c'était un peu un papier un peu glacial. Pardon.
Avant que la Russie ne s'est pas construite grâce à Staline.
J'ai dit la Russie ?
Oui.
Pardonnez-moi, je voulais dire l'URSS.
Voilà, parce que Staline a construit l'URSS sur un acquis qui était déjà là,
oui.
La culture russe. Il n'a fait que reprendre un certain nombre d'ingrédients, et notamment ce que Sonia évoque, le fameux personnage fort. Providentiel.
C'était ma transition, vous lisez dans mes pensées, pardon. Serge Sarkissian, c'est génial.
Mais pour aller dans votre sens, vous savez qu'il est question actuellement de créer un musée Staline en Russie.
Vous me l'apprenez, mais...
Alors ce sera tel que le projet se présente, il est d'origine privée pour l'instant.
D'accord.
Mais enfin, il en est fortement question.
Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des subsides publics, en l'occurrence. Mais je sais qu'en Géorgie, il s'est fait l'objet d'un mythe, mais ce n'était pas forcément le cas dans les autres républiques socialistes, et certainement pas en Ukraine. Mais pour revenir à notre sujet, vous avez raison, j'ai fait une confusion tout à l'heure, mais comme quoi, hein, c'est l'URSS, c'est Staline qui a incarné l'URSS, et les Russes eux-mêmes, pour beaucoup, considèrent qu'après, c'était le décorum de l'URSS, mais ce n'était vraiment plus l'URSS, et certainement pas chez des gens plus libéraux comme Andropov ou plus tard Gorbatchev. Mais justement, y a cette dualité en fait, qui parfois nous déconcerte, c'est-à-dire ce côté soviétique, système soviétique, monolithique, avec ce qu'il avait de positif dans les progrès qu'il a instauré en Russie pour les Russes eux-mêmes, parfois même à coups de pied dans les fesses, mais de façon assez violente, et en même temps avec tout ce qu'il avait, comme tous les régimes totalitaires, ce qu'il avait d'absolument horrible, et ce qu'il a fait à l'âme humaine, mais il y a cette âme humaine, il y a aussi l'âme russe. Et vous-même, Catherine Salvia, vous incarnez une homo sovieticus, pardonnez-moi pour le terme, mais du coup, ce qui vous intéresse, vous, déjà, à titre privé, et ce que vous devez retranscrire sur scène, dans le cadre du spectacle, c'est l'âme russe, justement. Comment vous nous amenez ça, en fait ?
Oui, l'âme, je ne sais pas, c'est le caractère des gens qui sont prêts à s'enflammer pour... on se dit, ils vont se taper dessus et tout ça, puis finalement, ça se résout par un grand verre de vodka et puis une tape dans le dos. Et puis ça me fascine, ça. C'est le soupe au lait des Russes qui s'enflamme pour des questions. Ils vont s'entretuer, mais non, pas du tout. Ils dînent ensemble.
Cavana dit à peu ou prou la même chose que vous dans son merveilleux roman Les Ruskov, que je lisais d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Tiens, un heureux hasard. Voilà. Crépuscule rouge jusqu'au 29 juillet au théâtre Le Petit Chien à 18h50. Comment s'est passé ces deux premières semaines de festival pour vous ? Comment ça s'est passé ?
Ça s'est passé très bien parce que, comme toute création, on ne sait pas où on va. Là, nous avons en plus un thème. Est-il d'actualité ? Va-t-il dans le festival off où on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions, et souvent de propositions plus festives, plus légères. Et on a été très heureux parce qu'effectivement, le public a été là très vite. Au bout de deux ou trois représentations, on avait pas mal de monde et on en était très, très, très heureux. Donc, ça s'est bien passé. C'est plus difficile actuellement parce que, bon, comme pour beaucoup de salles, je crois que les restrictions sanitaires plus la fin du IN.
Le théâtre, la salle dans laquelle vous vous produisez est concernée par les restrictions liées au pass sanitaire.
Oui, parce que
c'est plus de 50 places.
C'est 100 places, oui. Donc, voilà. Mais bon, non, ça s'est très bien passé, vraiment.
Vraiment, mais d'autant plus que le sujet est délicat.
Oui.
Quand bien même il suscite de la nostalgie chez les gens qui ont vu ça à l'époque, quel que soit l'âge qu'on ait eu d'ailleurs, à l'époque on a vu ça à la télévision, puisqu'on avait vécu ces révolutions lointaines, par ce truchement-là. Et par conséquent, je vous dis spasiba, das vidanie.
Ah, oh, merci.
Comment on dit ça en arménien? Dites-moi, Serge Sarkissian.
Moi, ça ne me vient pas les...
ça, mais on découvrira peut-être dans le texte du texte que vous avez écrit, Crépuscule Rouge.
Ceci dit, on vous invite à venir voir le spectacle.
Exactement. Et par conséquent, c'est jusqu'au 29 juillet que les auditeurs d'Osmose pourront en faire de même.
Merci
Serge Sarkissian, merci Bernard Lanneau, merci Catherine Salvia. Et à bientôt sur Osmose.